La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
C'est l'heure de retrouver nos esprits libres, Routel Krief et Marc Lambron. Routel Krief, éditorialiste à LCI, Marc Lambron de l'Académie française, que vous retrouvez chaque matin à 7h20 sur notre antenne pour parler français du mieux possible avec les conseils de l'Académie française. Bonjour vous deux.
Bonjour, bonjour David.
Merci d'être avec nous chaque mercredi. Je vous propose de commencer notre conversation avec cette proposition d'Emmanuel Macron qui a donné lieu depuis lundi à un débat très animé à l'Assemblée nationale. Envoyer des troupes occidentales sur le terrain ukrainien, sans doute à dose homéopathique, mais plus que symbolique. Surprise, sidération, critique, arrière-pensée, débat, que faut-il en penser ?
Écoutez, la France a déjà envoyé des troupes au Mali, en Afghanistan, et dans le fond, ce qui se passe en Ukraine est aussi extrêmement important et nous concerne au premier chef. Et je le comprends parfaitement. En revanche, la manière de le faire de la part d'Emmanuel Macron m'a stupéfait. Parce que nous sommes à la sortie d'une conférence d'unité entre les Européens, d'aide réaffirmée, renforcée pour l'Ukraine. Et il y a cette phrase, en a-t-il vraiment mesuré l'impact ? Oui, il veut maintenir l'ambiguïté stratégique. Oui, il veut montrer qu'on veut hausser la riposte face à la Russie. Mais l'idée des troupes au sol, c'est tout un fantasme, c'est toute une image qui, pour les Français, déclenche une forme d'angoisse et qui n'a peut-être pas été suffisamment mesurée par le président. On est à moins de 4 mois d'une élection européenne dans laquelle les partis populistes guettent le moindre faux pas du président, n'attendent que cela. Évidemment, ce qu'il a dit allait être détourné, tordu, distordu. Évidemment que ça allait être mal compris, ça allait être manipulé, instrumentalisé. Donc, il y avait un gros risque et je pense que c'était une mauvaise opération. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? L'ensemble de l'échiquier national, y compris les écologistes, qui sont extrêmement favorables au soutien de l'Ukraine, ont désapprouvé cette phrase. Et en Europe, on a eu le balai de tous les Européens qui ont dit pour la première fois, et c'est un grand cadeau à Poutine, nous n'irons pas.
Marc Lambron.
Bah pour une fois, je suis assez en dissentiment avec Ruth. Alors, je pense qu'il faut poser camper le paysage. Bon, d'abord, Macron, c'est un Européen convaincu. Ça, il n'y a pas de doute. Discours en 2017 de la Sorbonne dès son arrivée. Ensuite, il y a un élément de situation, c'est-à-dire l'Ukraine. Ça fait 2 ans que ça dure. Je vous rappelle qu'on a reproché à Macron au début d'aller parler avec Poutine. Hein. Il pensait que son charme était plus fort que le FSB, mais le FSB est plus fort que la séduction de Macron. Bon, alors maintenant. Situation, le front est à peu près gelé, il y a même des régressions, des défaites ukrainiennes ponctuelles, et il y a la question des armes, hein, de la disette, des approvisionnements, d'où cette conférence. Alors, je pense que ce que fait Macron, il l'a pesé, y compris au plan interne, parce que là où nous sommes, il y a la menace qu'un parti europhobe en France gagne prochainement les élections européennes, ce qui est quand même paradoxal. Et deuxièmement, il y a une autre échéance, c'est novembre, c'est-à-dire la possible réélection ou élection de Donald Trump. Donc ça pose la question de l'Europe, ça pose la question de l'autonomie de défense et de stratégie de l'Europe. Alors il dit coalition avec troupes au sol. C'est intéressant le mot coalition, parce que historiquement, il y a eu 7 coalitions entre 1792 et 1815, mais c'était contre la République française, puis l'empereur. Et ça s'achève avec Waterloo. Donc à l'époque, Poutine s'appelait Napoléon, si vous voulez. Les choses s'inversent. Et je crois, pour finir, je pense que Macron, alors il faut entrer dans la tête du président, il a une double hantise. La première hantise, ça serait d'être le président qui aurait accepté des Anschluss, si j'ose dire, russes en Europe centrale. Et la deuxième hantise, c'est d'être le président qui aurait fait le lit, ou en tout cas qui n'aurait pas empêché l'arrivée d'une extrême droite au pouvoir en France.
Marc Lambron, vous parlez d'Anschluss. Alors on dit l'histoire ne se répète pas, c'est pas pareil, etc. Enfin, on peut faire des comparaisons quand même. On est dans une crise mondiale qui peut rappeler, crise économique qui peut rappeler celle des années 30. On est dans une situation où on a une offensive russe, un expansionnisme avec un régime qui est plus proche de la dictature que de la démocratie. Nous avons des partis d'extrême gauche et d'extrême droite qui reproduisent d'une certaine façon les lignes idéologiques des aînés. On a un grand pacifisme à l'extrême gauche et un attentisme à l'extrême droite, si j'ose dire, et je suis sympa. Et puis, le premier qui propose d'intervenir militairement, les autres, non, il faut temporiser, attention,
oui,
pas de guerre, etc.
On
peut faire une comparaison avec Munich. Ma question, moi j'affirme rien,
juste
ma question
phrase,
c'est, est-ce que vous la faites la comparaison ou pas?
Oui et non, d'abord il n'y a pas de pacte germano-soviétique. Et puis il n'y avait pas d'OTAN à l'époque, non. Je crois que la question qui se pose, et c'est là que Macron, au fond, je pense, a raison de la poser, bon, c'est qu'une intervention, elle ne se ferait pas dans le cadre de l'OTAN, parce que l'OTAN, c'est un pacte défensif. Bon, donc c'est, est-ce que si les subsides et l'aide américaine font défaut, est-ce qu'il est possible de construire, d'avancer sur ce serpent de mer qu'on appelle la défense européenne et qui, depuis des années, est à l'agenda sans être traité? Mais et ça pose la question de la survie ou de la défense d'un continent.
Mais tout ça est tout à fait audible et plus qu'audible, et c'est complètement son rôle. Mais quand on va sur ce terrain-là, c'est le cas de le dire, on le prépare sur le plan européen, on ne se retrouve pas à essuyer ces désaveux unanimes hier, et ça c'est quand même un camouflet, et on le prépare avec l'opinion publique française et les partis politiques. Moi, je pense que effectivement, pourquoi pas, s'il y a cette décision et elle peut s'entendre, à ce moment-là, le président rassemble et réunit les partis politiques, parle aux Français, explique pourquoi les Russes nous attaquent, y compris non seulement nos valeurs, et c'est fondamental, mais aussi concrètement par des trolls qui relayent toutes les fausses informations sur les conflits sociaux en France, sur la vie politique française, qui sème le trouble, qui mettent des étoiles de David sur les murs de France, etc.
Ça, il le dit depuis 2018 et la crise des Gilets jaunes.
Mais
hein.
Oui,
il en
mais,
parle de
oui,
l'ingérence.
Non, mais là, s'il y avait une décision d'envoi de troupes au sol. Alors, en l'occurrence, il pensait concrètement aux démineurs et aux cyberattaques. Donc, en fait, ça a été mal compris, et j'entends, et je veux bien tout à fait écouter la nuance, il s'agissait pas, d'abord, on est dans une armée de métier en France, donc il s'agirait pas d'envoyer tous les fils et tous les frères et tous les pères sur le terrain, mais tous ceux qui sont formés pour. Néanmoins, c'est quand même une décision importante, et une décision importante qui se prend dans une forme de concertation, de mobilisation et d'implication du plus grand nombre. Or, c'est pas ce qui s'est fait. C'est là que moi je suis ennuyée, choquée, embêtée, parce que du coup il se prête à ce désaveu qui est une forme de cadeau à Poutine, et ça me dérange encore plus.
Vous dites en substance, Route, il n'avait pas besoin de ça. Marc?
Non, je crois que c'est un électrochoc non concerté en effet avec ses partenaires, mais c'est une façon de dire qu'il y a le feu au lac dans des opinions qui sont sans doute, qui sont souvent assez chloroformées. Enfin, c'est la formule d'Hubert Védrine, nous sommes des bisounours dans un Jurassic Park. Et je pense que dans la psychologie même de Macron, même s'il ne peut pas le dire trop, depuis son surplomb jupitérien et sa vision géopolitique qu'il estime large, on voit bien qu'il est excédé par ses revendications catégorielles internes avec lesquelles il a traité. Et récemment, c'était pas rien, c'est-à-dire les retraites, la SNCF et ses grèves intermittentes, et maintenant la question des agriculteurs. Et je pense que Macron pense que nous sommes des citoyens myopes par rapport à des enjeux géopolitiques qui peuvent être demain graves.
Cela mérite une intervention au plus haut niveau qui prend les Français à témoin de la situation et les partis politiques pour en parler au Parlement et pour éventuellement avancer là-dessus.
Donc, Ruth, si je vous comprends bien, il fallait pas suggérer ceci entre deux portes et en fin
Exactement.
De conférence de presse. Il fallait programmer une intervention présidentielle.
Absolument.
Un peu comme Mitterrand avait dit, les armes vont parler en parlant du COVID.
Hein, oui.
Il disait le COVID. Là, c'est de dire, j'ai l'intention de poser la question d'une intervention.
Alors,
accru
mais
là, il
n'a
pas dit au plan interne. Il l'a dit lors d'une réunion internationale.
Oui.
C'est quand même le lieu.
Oui, le problème, c'est qu'hier, tous les autres pays l'ont lâché. Alors, peut-être qu'en fait, ils sont des lâcheurs, que peut-être, en fait, ils en avaient parlé pendant la réunion et puis qu'après, ils l'ont lâché parce qu'ils ont vu l'effet que cela fait. Je ne sais pas. Mais ça aurait dû être beaucoup plus préparé. J'entends que ce soit un électrochoc. J'entends que ce soit peut-être utile. Je ne suis pas du tout opposée à cette idée. Je suis un peu estomaquer de la forme parce que je pense qu'elle dessert le fond.
Ça vous paraît improvisé?
Oui, moi je vais pas faire de comparaison hardie et impropre, mais il y a dans les années 30 un général, ou il était peut-être même colonel à l'époque, qui s'appelait De Gaulle, qui fait paraître un livre qui s'appelle Vers la main de métier, où il prône l'usage des chars, notamment sur le théâtre.
Il n'est pas président à l'époque.
Il n'est pas président, mais n'étant précisément que colonel, il n'a pas été entendu. Or, il y avait quand même quelque chose comme une vision prospective, sinon un livre visionnaire. Donc parfois, contre le vent, contre le flot, il n'est pas mauvais qu'il y ait des, comme on dit aujourd'hui, des lanceurs d'alerte.
Mais moi, je l'entends et je pense peut-être que ce serait judicieux, mais je suis désespéré par l'effet que ça a fait finalement. Alors peut-être me direz-vous, c'est un effet à plus long terme, mais ça engage une réflexion. C'est d'abord une levée de bouclier et ensuite il y a une prise de conscience. Pourquoi pas? Mais l'effet d'hier est contre-productif.
Moi, je crois que ça veut dire juste une dernière chose. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire, un, je ne suis plus complaisant, comme on m'a accusé de l'être, avec Poutine. Et deuxièmement, mesdames et messieurs, dans un an, vous pourriez être laissé à vous-même parce que le président Trump couperait les crédits. Donc vous avez un an, un peu moins d'un an pour réfléchir. Je crois que c'est ça l'aiguillon ou le sens de ce qu'il a dit hier.
Et vous écoutez Radio Classique, il est 8h50, cet Esprit Libre avec Marc Lambron et Ruth Elkrief. Je vais être extraordinairement trivial, vulgaire, terre à terre. Est-ce qu'il n'y a pas des arrière-pensées quant à la façon dont la majorité et la présidentielle pourrait pousser le Rassemblement National dans ses retranchements sur cette question? Après le salon de l'agriculture, on clive encore entre le Rassemblement National et nous, la majorité présidentielle. Il n'y aura rien. On continue à l'Assemblée Nationale. On veut faire sortir le loup du bois et révéler ses accointances pro-russes. Et donc, on l'accule dans un débat sur ces questions où, une fois de plus, entre la majorité macronienne et le Rassemblement National, il n'y a rien.
Alors, que ça existe et que ce soit aujourd'hui, on l'a vu avec Gabriel Attal avec beaucoup de talent hier, une tactique très claire et une stratégie pour ces élections, je l'entends et pourquoi pas. Je pense qu'il faut quand même mesurer les faits. On ne peut pas lancer une déclaration aussi importante uniquement pour des raisons de politique intérieure. Sincèrement, même si oui, il y a un clivage important et il est de bon ton et tout à fait judicieux d'aller chercher à le débusquer. Et c'est ce qu'a fait Gabriel Attal et on voyait le visage de Marine Le Pen extrêmement contrarié parce qu'elle croyait avoir vraiment trouvé la faille et qu'elle a été renvoyée à ses démons. Donc sur ce plan-là, c'est le jeu et c'est le jeu.
Ceci dit, Marine Le Pen, elle a beau jeu de dire vous voulez faire de la France un co-belligérant et elle est assez proche de la vérité quand elle dit ça. Vous voulez faire de la France un co-belligérant.
Alors,
elle trouve les mots.
Oui, mais c'est pour ça, ne pas lui donner d'arguments. C'est la base quand même d'une campagne électorale, ne pas lui donner d'arguments. Même si après on retourne la situation en disant qu'elle est une alliée objective de Vladimir Poutine, pourquoi pas? C'est de la politique, mais ne pas lui donner en amont d'arguments.
Oui, David Abiker, vous parliez tout à l'heure, là on va vous donner raison, des résurgences ou des parallèles historiques. Alors là, c'est pas le pacte germano-soviétique qui est invoqué, ça serait plutôt un pacte Le Pen-russe, en quelque sorte, c'est-à-dire une ligne Bardella-Medvedev, avec une cinquième colonne.
Ils vont pas être contents.
Mais vous avez vu aussi que il y a un je ne sais trop quel dignitaire russe qui a dit si Macron veut engager des troupes au sol, eh bien c'est la division Charlemagne, c'est-à-dire ces troupes françaises collaborationnistes qui étaient enrôlées avec la SS et qui sont allées combattre la grande armée soviétique. Donc quand même, le retour de la division Charlemagne, c'est pas mal non plus dans le paysage.
Excusez-moi, mais les communistes jusqu'en 1941 à la rupture du pacte germano-soviétique, c'est pas mieux non plus. Ah. Mais enfin, c'était l'histoire et mon Dieu, l'histoire.
Mais là, pour le coup, le dictateur, ça va pas se respecter. C'est-à-dire que le chancelier Scholz ne va pas pactiser, ne va pas aller signer avec ça. Molotov un pacte.
Enfin, sa réaction hier est très dure. Hein. La réaction du chancelier allemand est très dure. Ouais. Elle refuse de façon tellement vigoureuse toute cette idée que ça complique les choses. Et puis même les autres, jusqu'aux Suédois qui viennent d'entrer dans l'OTAN et qui pourraient être les plus engageants, les Polonais ont exclu cette hypothèse. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'elle sera d'actualité, mais elle se prépare, elle s'organise pour être efficace.
Oui, enfin, comme avait dit Mitterrand dans une autre situation, puisque c'est encore l'URSS, les pacifistes sont à l'ouest et les missiles sont à l'est. Hein. Et aujourd'hui, les pacifistes, ils sont en Allemagne, comme d'habitude, et les missiles, ils sont en Russie, comme d'habitude.
Bien sûr.
Les Allemands ont de nombreuses raisons d'être pacifistes, certes, et de se méfier de l'ex-URSS. Un mot sur une thématique, vous m'avez donné un sujet de dissertation que je vous renvoie, mon cher Marc Lambron. Regardez les hommes tombés.
Bah, on n'aura pas le temps. C'est le titre d'un film de Jacques Audiard. Je suis très frappé quand même par cette espèce de, en ce moment, les révélations décalées. Parfois des décennies après. Alors, ça vaut pour les journalistes, justement, qui travaillaient pour les pays de l'Est. Mais regardez comment, depuis l'affaire, depuis MeToo, en réalité, hein, Weinstein, Epstein, etc., Bill Cosby, vous avez eu quand même le Matzneff, si j'ose dire, le Duhamel, le Hulot, le Poivre d'Arvor, et maintenant, en quelques semaines, le Depardieu, le Jaco, le Doyon, Miller. et même le Miller. Donc, c'est quand même assez impressionnant, cette. Alors pourquoi ? Bah d'abord, ça révèle que Ruth le sait sans doute, qu'il y a des hommes de pouvoir qui agissent comme des buteurs sexuels. Deuxièmement, on peut se demander s'il n'y a pas intrinsèquement une testostérone violente chez les messieurs, parce qu'une chose assez grave, c'est que nonobstant tout ce qui se dit, il y a toujours 120 féminicides en France par an, c'est-à-dire un tous les trois jours. Ah, ça ne bouge pas. Vous savez aussi que 8 accidents de voiture sur 10, il y a un conducteur et pas une conductrice au volant. Ce qui est intéressant aussi, c'est une sorte de mutation du féminisme, parce que moi je me souviens du féminisme, j'étais adolescent des années 70, qui était assez revendicatif et heureux, c'était la liberté de choisir, comme on disait pour les femmes. Il y a eu depuis 10-15 ans le woke, c'est-à-dire des universités qui et maintenant ce sont des personnes individuelles, notamment des actrices, qui parlent, et avec un effet considérable dans l'opinion. Dernière chose, je suis bien content de voir que des pères nobles, des donneurs de leçons, comme Olivier Duhamel ou Gérard Miller, sont pris au piège de leur tartufferie.
Ce sera le mot de la fin, tartufferie.
Je signe.
Il y a un auditeur qui dit qu'il faut appeler Ruth, il faut l'appeler Ruth. Mais non, on vous appelle Ruth. Oui. Qu'est-ce que vous préférez ?
Ruth.
Bah, c'est Ruth qui choisit.
Ruth la Moabite, comme dans le poème de Victor Hugo.
Et dans la Bible.
Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. C'était un plaisir de vous entendre, surtout quand vous n'êtes pas complètement d'accord. On se quitte avec la musique du film Dune, justement. Elle est signée d'un grand de la musique de film, Hans Zimmer. Dune, deuxième partie qui sort aujourd'hui, que vous recommandez tout à l'heure, Samuel Blumenfeld. C'est l'occasion de se perdre dans les déserts de sable. Merci à tous les deux, à la semaine prochaine.
Merci.
Merci.